Comment se portent les entreprises de notre région? C'est la question que vous posez ce matin, Isabelle Duché, à la directrice régionale de la Banque de France.
Oui, je reçois ce matin Christine Bardinet. Bienvenue sur Radio Présence.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Vous êtes directrice régionale de la Banque de France et présentez ce matin le bilan 2023 et les perspectives 2024 des entreprises de notre région. Je voulais qu'on commence par, évidemment, cette actualité. Ça fait maintenant plus de 2 ans que la guerre en Ukraine a commencé. À celle-ci s'ajoute le conflit entre Israël et le Hamas. Quelles sont les conséquences sur les entreprises de notre région ?
Alors Isabelle, bien sûr, ce sont des éléments qui ont des conséquences sur nos entreprises, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, ce sont des éléments qui ont accru notamment les prix et principalement l'inflation. Mais quand on regarde bien, l'inflation a commencé bien avant le conflit ukrainien et on a eu un pic effectivement. Donc en Europe, ça s'est traduit en fin 2022 et en France, exactement en février 2023. Donc on a eu un impact fort de l'inflation qui est en train de reculer. Donc ça, je crois que c'est la bonne nouvelle de la fin d'année, c'est qu'on commence à gagner la bataille de l'inflation. Vous avez vu les derniers chiffres, on descend en dessous de 3%, donc c'est très positif. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos entreprises en 2023? En tous les cas, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Donc, qu'est-ce qu'elles nous ont dit dans une enquête où on a interrogé plus de 2900 entreprises qui nous ont répondu? C'est que 2023 a résisté. Donc, on a écarté le scénario noir de la récession et elles ont résisté plutôt correctement, comme la croissance d'ailleurs, de manière, on va dire, atone, avec malgré tout un très gros moteur qui est l'aéronautique dans notre région et qui a fondamentalement tiré l'industrie. Les services se sont plutôt bien maintenus et le BTP, parce que je crois que c'est la question que tout le monde pose, finalement a plutôt résisté aussi. Alors, plus faiblement, plus 1%, avec une différence assez majeure entre le gros œuvre et le second œuvre. C'est clairement le second œuvre qui a tiré la croissance du bâtiment et l'activité du bâtiment en 2023. C'est d'ailleurs là qu'il y a le plus d'effectifs dans nos entreprises de bâtiment. Et les travaux publics se sont plutôt maintenus. Alors vous savez que les travaux publics, c'était assez lié au cycle électoral, par ailleurs.
Et oui, il faut que le maire accorde des permis de construire et le marché du bâtiment se porte bien. Puisque vous parlez, Christine Bardinet, du bâtiment, il y a quand même, vous dites, une résistance, notamment pour le second œuvre. Il y a quand même des difficultés de recrutement qui sont persistantes.
Alors, le bâtiment, effectivement, il a ce paradoxe de détruire de l'emploi quand même l'année prochaine. Ce sont les prévisions. Mais d'avoir des vraies problématiques de recrutement. De la même manière, dans le gros œuvre, le second œuvre et les travaux publics aussi. Alors pourquoi, pardon, juste peut-être pour rappeler pourquoi ça a résisté, ce qui n'est pas toujours ce qu'on entend en 2023, c'est qu'on a ce qu'on appelle consommer du carnet de commandes. Il y avait des carnets de commandes qui étaient
en attente
ou en tous les cas en cours. Et donc j'ai pris cette image de la piste de ski. Quand vous arrivez d'une piste de ski, vous avez de l'inertie et notamment sur le gros œuvre, on était sur l'inertie. Moins sur le second œuvre, qui ont quand même encore des carnets de commandes. Et les 2 premiers mois de l'année en 2024, après les avoir croisés par ailleurs avec la Fédération nationale du bâtiment, sont plutôt pour notre région relativement, je dis bien relativement, positifs.
Bon, alors voilà une bonne nouvelle. Et puis effectivement, il y a ces effectifs dans le bâtiment, ces effectifs dans les travaux publics, avec des perspectives qui sont à la hausse.
Alors, les perspectives du bâtiment sur 2024 sont quand même à la baisse en global. À la baisse en global. Les travaux publics sont stables. Oui. En revanche, il n'y aura pas de recrutement dans le bâtiment de prévu. C'est plutôt malheureusement des suppressions d'emplois. Alors, à limiter aussi, puisqu'un certain nombre de salariés se retrouvent en auto-entrepreneurs. Alors, ce n'est pas toujours une solution parce que peut-être vous allez me poser la question des défaillances. Donc, il faut beaucoup accompagner nos collègues qui passent de salariés à auto-entrepreneurs. Mais globalement, alors que l'industrie et les services vont recruter, le bâtiment a plutôt prévu de détruire quelques emplois.
Oui. Mmh. Alors, vous l'avez évoqué, Christine Bardinet, ce retour d'une inflation autour de 2%. C'est ce que vous nous aviez dit, en tout cas, quand vous étiez venu le 28 septembre en reprenant les mots de François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Il avait dit « Je suis confiant sur un retour de l'inflation autour de 2% en 2025 ». Donc finalement, on y arrive. Comment se décline cette baisse pour les entreprises? Comment ça se traduit?
Alors, ça se traduit sur plusieurs sujets. Bon, le premier a été quand même l'énergie. Alors, l'énergie, malheureusement, ce n'est pas toujours immédiat, puisque ça dépend du contrat que vous avez et de la durée du contrat. Alors, bien sûr, le pouvoir de négociation est plus important quand vous êtes une grosse entreprise qu'une toute petite PME, mais globalement, l'énergie baisse. Le deuxième sujet, c'est beaucoup moins de problématiques d'approvisionnement de matière, qui avait été, vous savez, le pic de problématiques à partir de l'Ukraine, et au moment où tout le monde avait commencé à fermer un peu ces territoires, plus les goulots d'étranglement post-Covid. Alors ça s'est beaucoup, beaucoup détendu. On a même des prix de matière qui ont vraiment chuté, à tel point qu'aujourd'hui, dans les prix des produits, certains de nos entreprises nous disent, écoutez, je baisse mes prix parce que l'aluminium, typiquement, a énormément baissé. Donc on a pour les entreprises en direct un certain nombre, donc les approvisionnements sont quasi plus un problème et les prix commencent à baisser. Pas tous bien entendu, mais ça c'est une vraie, un vrai impact immédiat. Alors là on a une toute petite, vous l'avez mentionné en introduction, interrogation, vous savez, c'est le détour de l'Afrique par les transporteurs en raison des conflits au bout du Yémen, on va dire. Bon, c'est pas catastrophique pour le moment. Bien sûr, CGM a commencé à remonter ses prix puisque c'est 3 jours de voyage
en plus.
Et
oui, il faut contourner toute l'Afrique. Là.
Alors, voilà, tout le monde ne contourne pas. C'est un sujet. Bon, il faut savoir qu'en volume, pour la France, ce n'est pas les routes les plus empruntées. Aujourd'hui, la route la plus empruntée, c'est celle qui va des États-Unis à l'Europe, pour différentes raisons, mais notamment énergétiques d'ailleurs. Donc, bon, on y est très attentif. Ce n'est pas un facteur majeur d'inflation, mais voilà, ça pourrait être. C'est pour ça qu'on dit que tout élément aujourd'hui de stabilité nous permet de prévoir 0,8-0,9% de croissance en 2024, nonobstant les éléments géopolitiques.
Mmh. Alors, il y a quand même eu aussi cette chute du prix des matières premières. Hein, le rapport Cyclope, le 23 janvier, consacré au marché mondial des ressources naturelles, faisait le bilan d'une année marquée par une chute de 14%.
C'est ça.
Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important pour les entreprises.
Voilà, ça rejoint hein, le sujet de l'aluminium. Alors, pourquoi on a autant de baisses? C'est peut-être ça la question. Oui. Alors, plusieurs questions. Par rapport à l'après-Covid, on a quand même réussi à remettre de l'approvisionnement, etc. Et puis, on a moins de croissance en Chine. Donc, fondamentalement, il y a moins de demande en Chine. Et ça, c'est assez naturel sur les prix. Ça va assez vite. Vous avez hop, une petite baisse. Et globalement, la croissance en Europe est à tonne. On a les États-Unis qui vont bien, en revanche, c'est sûr. Mais vous voyez que les prévisions mondiales du FMI en 2023 étaient relativement... Alors, je ne dis pas faible parce que c'est 3 et quelques, mais pour le monde en tant que tel, c'était plutôt une croissance aussi assez molle. Voilà. Donc, on a toujours des interrogations et vous devez voir sur la Chine. La croissance en Chine va être positive, bien sûr, mais elle reste avec moins de demandes. Donc, c'est un impact assez immédiat sur les matières.
Et oui, forcément, parce que c'est un gros marché, ce marché chinois. Vous avez évoqué, Christine Martinet, ce secteur de l'aéronautique qui tire le mieux son épingle du jeu et qui est vraiment le fer de lance, le moteur hein, dans ces entreprises de notre région. Une croissance de son chiffre d'affaires de 12% après 14% en 2022. Quelles sont les perspectives pour cette filière?
Alors, on a bien sûr les donneurs d'ordre qui ont des carnets de commandes qu'on connaît à 8-10 ans et puis les fournisseurs derrière, donc la filière. Donc la filière, elle a beaucoup de carnets de commandes sur une durée assez longue. D'ailleurs, c'est le seul secteur industriel aujourd'hui en France qui a ce carnet de commandes. Mais on peut connaître à l'intérieur de la filière quelques difficultés de tension, notamment sur les besoins de fonds de roulement, hein, c'est un besoin de trésorerie, parce qu'il faut investir de manière supplémentaire pour arriver à monter en cadence. Donc c'est une vigilance que nous avons avec le secteur de l'aéronautique en tant que tel, les banques et nous-mêmes, pour amener à ce que la montée en cadence se fasse dans les meilleures conditions pour tout le monde.
Oui, et qui implique aussi, cette montée en cadence implique aussi des recrutements.
Alors, bien sûr, l'industrie également a été beaucoup recruteuse et toujours recruteuse. Il manque toujours des profils, que ce soit des profils cadres, que ce soit des profils maîtrise ou des profils d'employés. Donc oui, il y a toujours des besoins très forts sur l'ensemble de la filière, en fait. Mmh. Donc ça, on n'a pas encore résolu ce sujet. Quand bien même le marché de l'emploi se détend un tout petit peu, vous avez vu que le chômage a augmenté, en particulier dans notre région, hein, qui augmente toujours assez massivement. Enfin, c'est plus 0,3 quand la nationale prend plus 0,1. Donc oui, on a ce paradoxe avec un taux de chômage à 8,8 et des demandes de recrutement qui sont très fortes.
Oui, et qui sont persistantes. Alors, il y a quand même dans ce secteur aéronautique, il y a quand même cette filière du spatial qui, elle, est en revanche un peu plus à la peine.
Oui. Vous avez raison, le spatial, c'est le vilain petit canard, hein, de la filière aéronautique. Alors là, c'est sûrement plus structurel, c'est-à-dire quel modèle d'affaires on a sur le spatial en France, notamment vis-à-vis de la concurrence et, on va dire, américaine, pour ne pas citer une entreprise en particulier. Donc oui, c'est des filières qui sont plus compliquées, avec des modèles d'affaires, à mon avis, à réfléchir sur le modèle même de satellite que nous voulons, dans un cadre de souveraineté européenne.
Vous avez évoqué effectivement ces défaillances d'entreprise avec la difficulté pour les salariés qui quittent l'entreprise de retomber sur leurs pieds, notamment pour ceux qui sont en statut d'auto-entrepreneur. Comment faites-vous pour les accompagner?
Alors, nous, la Banque de France peut accompagner les toutes petites entreprises. Ce n'est pas celle, malheureusement, qu'on a le plus parce que c'est La Banque de France travaille sur les entreprises essentiellement pour du collatéral de politique monétaire, quand même, initialement, et de crédit. Néanmoins, nous avons des collègues qui accompagnent les start-up, typiquement, avec une manière de faire qui est différente, notamment une analyse de crédit qui est différente de celle des grandes entreprises. Je crois que c'est un message à passer. Quand on crée une auto-entreprise ou une toute petite entreprise, une TPE, il faut vraiment se faire accompagner pour la viabilité du modèle d'affaires au-delà de 3-4 ans. On voit que les défaillances aujourd'hui sont très majoritairement, mais vraiment très majoritairement, des toutes petites entreprises qui ont une durée de vie très faible. Enfin, en tous les cas, assez faible. Donc, on voit que c'est sûrement des structures qui ont été créées au moment du Covid ou après le Covid et qui, dans une phase de normalisation, comme on est aujourd'hui, ont du mal à conserver ce modèle.
Il y a aussi un élément qui peut être positif. On a entendu que les salaires réels progresseraient sensiblement en 2024-26 sur un rythme proche de celui de la productivité du travail. Donc c'est la Banque de France qui a indiqué cela dans sa publication du 27 février. Et pourtant, les augmentations de salaires négociées en début d'année dans le cadre de ces fameuses NAO, les négociations annuelles obligatoires, ont été moins généreuses que l'an dernier. Ça, c'est en tout cas ce que publie ce cabinet de conseil en ressources humaines, le groupe Alpha. Qu'est-ce qu'il faut croire finalement?
Alors, un peu des deux.
Un peu des deux.
Donc, pourquoi la Banque de France regarde très précisément les augmentations de salaire, notamment en Europe? C'est ce qui va nous conduire à baisser les taux d'intérêt en partie. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut absolument éviter, c'est une inflation, une spirale prix-salaire. C'est-à-dire que j'anticipe que les prix vont être élevés, donc j'augmente les salaires. Et là, vous avez une spirale assez vicieuse qu'on veut fondamentalement éviter. Donc, on va regarder exactement l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que quand on prévoit une inflation à 3, finalement, on augmente les salaires de 2,8? C'est ce qu'on appelle dans notre langage économique les anticipations d'inflation ou l'ancrage d'inflation. Et donc, il est très important pour nous d'avoir un ancrage le plus proche possible de 2% pour arriver à ces 2%. Voilà, c'est comme ça qu'on regarde. Alors, il y a plusieurs choses qu'on regarde, mais les anticipations d'inflation sont très importantes. Ce qu'on voit malgré tout dans les négociations annuelles des salaires, c'est quand même, comme on a une baisse de l'inflation un peu plus rapide que ce qu'on avait estimé, on a des négociations annuelles des NAO qui ont été supérieures à l'inflation, qui sont supérieures à l'inflation. Alors, pourquoi on dit ça? Il a raison, le cabinet RH, au moment où il a fait l'analyse, il a peut-être, je ne sais pas, vu des négociations des NAO à 3,5%, l'inflation était encore à 3,8%, il se dit qu'il y a un écart. Oui, mais une NAO, c'est sur un an.
Eh oui, c'est ça.
Voilà. Ouais, donc, ouais. On a quand même cet effet potentiellement ciseau. Les salaires ont beaucoup augmenté en 2023 avec les minima sociaux. Et puis, si vous voulez conserver votre échelle de salaire, vous augmentez aussi. On a plutôt une modération salariale vis-à-vis de l'inflation. Mais c'est vrai que nous estimons que les salaires réels vont être au-delà de l'inflation parce que l'inflation baisse plus vite en fait, qu'imaginer. Donc il y a un petit effet, effectivement, d'aubaine quelque part, mais on est très vigilant. Et c'est d'ailleurs ce que Christine Lagarde, hein, la présidente de la BCE, a diffusé dans la presse la semaine dernière en disant que c'est vraiment un élément d'attention. Bon, ça a l'air de bien se passer, hein, puisque les chiffres également en zone euro sont vraiment bien inférieurs à 3%, puisqu'on est à 2,6%. Voilà. Donc c'est vrai que depuis le mois de septembre, nous n'avons pas augmenté le taux d'intérêt. Un conseil des gouverneurs aura lieu là dans les quelques jours. Bon, il ne va pas baisser les taux maintenant, hein, ça c'est pas le sujet, mais ça veut dire qu'on est vraiment dans une stabilité des taux et ce qu'on attend désormais, c'est la baisse.
Voilà, une stabilité des taux et une baisse qui est attendue. Merci beaucoup Christine Bardinet, directrice régionale de la Banque de France.